La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure. Et bon, on est autrefois là. Je me souviens juste rapidement que la dernière semaine, on a lu un article qui a été traduit par une revue italienne qui s'appelle I giorni e le notti, écrit pour compagnons et compagnonnes du nord de l'Italie et ailleurs. Et l'article il faisait une analyse économique, politique de ce que c'est. Ça a été le début du fascisme en Italie pendant la fin des années 10 et le début des années 20 de 1900. Et bon, on recommence d'où on a repris l'autre fois.
Au rictus du vieux commentateur de gazette, enthousiasmé par la force avec laquelle étaient frappés les ennemis de la nation, se rajoutent aujourd'hui les likes de celui qui éprouve à travers l'écran tactile de son smartphone, l'ivresse de participer en personne aux opérations des polices, prêt à affronter, mais par procuration, des embarcations pleines à craquer de malheureux.
La démocratie, qui est la forme la plus achevée et la plus intelligente pour imposer l'État et le travail salarié, tend à normaliser toute personne qui arrive au pouvoir. Les exemples historiques sont innombrables. La prétendue anticapitalisme, du fascisme
sans sépulcriste.
Fascisme de 1919 de la première heure se transforme, après la conquête du pouvoir, en un appui complet au patronat de l'industrie et à l'Église. Derniers exemples en date, il suffit de voir ce qui est resté du citoyennisme écologique et de la décroissance heureuse, maintenant que les jaunes sont au pouvoir. Leurs promesses se réduisent à plus de développement, un peu d'argent et beaucoup de police. En même temps, l'histoire démontre que la peste nationaliste et raciste, utile aux intérêts des classes dominantes, n'est jamais qu'une simple servante, et que l'idéologie est elle aussi une force matérielle. William Reich la voyait dans les rêves des boutiquiers, dans les tics nerveux et dans les postures corporelles de nombreux petits bourgeois appauvris par la crise qui se confiaient à lui. Et si cette peste se propage d'autant plus que les individus sont socialement isolés, et technologiquement connectés. Le terrain est alors actuellement plus propice que jamais. Non au sens de la militance active, qui suppose de la fatigue, de se lever tôt et le risque de se prendre quelques coups, autant de choses que le citoyen démocratique est trop flemmard pour désirer, mais au sens de la passivité enthousiaste, de la mobilisation réactionnaire à l'époque des tweets. Reste à voir le rôle qu'assumeront, dans tout ça, les groupes néofascistes, qui sont immédiatement descendus dans la rue pour soutenir le nouveau gouvernement, même ceux qui, avant les élections, décrivaient l'actuel néo-ministre de la police, Salvini, comme un bouffon du système. D'ailleurs, l'opportunisme le plus éhonté est depuis l'origine mussolinienne le trait distinctif de la doctrine fasciste, selon laquelle, sur le plan de l'action, il n'y a pas de trahison, il n'y a que victoire ou défaite. Ceux qui ont soutenu dès le début le chef des Verts bénéficieront avant tout d'argent et d'une majeure liberté d'action, car qui contrôle la police détermine aussi les rapports de force dans la rue. Si l'on ajoute à cela la pénétration de ces groupes dans les quartiers populaires, éviter la confrontation sous prétexte que notre ennemi est ailleurs, même si c'était effectivement vrai, risque de se relever une erreur tragique. En effet, le rôle des fascistes comme force de police supplémentaire pour certains secteurs du patronat ne doit pas être écarté. Ce qui doit être évité comme la peste, c'est de les combattre au nom de la démocratie, à l'ombre de laquelle ils sont nés et ont grossi.
Suivant l'intuition d'Angelo Tasca, l'absence d'opposition sociale et des classes doit être considérée comme faisant partie de la définition même du fascisme, autant que son utilité au système dominant. Son rôle consiste à représenter une véritable parodie réactionnaire de la lutte des classes. Si le repli de la guerre des classes nous a rendus incapables de nous opposer tant aux politiques économiques qu'à la législation anti-immigrée, c'est le repli de la violence des classes qui a permis autrefois et permet encore à la rancœur sociale de se diffuser et de croître. Le fascisme de la Lega est donc le prolongement de la contre-révolution qui se déploie depuis les années 80. et qui a culminé avec la démocratie blindée. C'est un terme issu des pays hispaniques et sud-américains qui désigne un régime représentatif et policier à la fois qui criminalise systématiquement les luttes sociales. Contre, on disait, qui a culminé avec la démocratie blindée, contre le terrorisme, c'est-à-dire contre la violence prolétaire. 4 décennies de guerre au cerveau ont réussi à détourner quiconque de toute violence, sauf, bien sûr, des doutes, la violence structurelle du système. Tasca écrivait « Une idée est comme une génération ou une succession de générations. Si une génération disparaît sans succession, l'idée est submergée et l'héritage perdu. » Ce que le fascisme a instauré entre 1924 et 1943, c'est-à-dire la réduction du champ de l'émancipation à une toute petite minorité, la démocratie l'a ressuscité entre les années 80 et les années 2000. Et nous ne sommes pas prêts de sortir de cette banquise. Durant le cycle international des luttes 2008-2013, un dégel avait peut-être commencé et quelques flambées de ruptures et d'attaques ont amené la question sociale à rompre les écrans et la démocratie digitale. Mais les générations révolutionnaires ne se succèdent pas selon l'état civil, surtout à une époque où c'est le capital lui-même qui déclare à ses esclaves que la fête est finie.
Toute guerre de principe est aussi une guerre de position, surtout dans sa phase décisive. Aucune bataille ne se fait sans un terrain de manœuvre pour y déployer ses forces, sans position depuis lesquelles prendre l'élan, établir des barrages, s'agripper et tenir malgré la violence de l'assaut adverse. Tasca. Si le barrage est un fait matériel, c'est-à-dire une certaine accumulation de force, son précipité est une disposition éthique. Or, le problème de la violence se présente de manière opposée de chaque côté de la barricade sociale et traverse avec ses contradictions les individus eux-mêmes. La classe dominante n'a pas besoin d'assumer en son nom la nécessité de la violence, qu'elle délègue à la magistrature, à la police, à l'armée, à la prison. Au niveau existentiel, le discours médiatique sur la nature pacifique de la démocratie et la nature violente de tous ses opposants trouve un exact reflet dans la fausse conscience de ceux qui exercent le pouvoir, mais ne doivent jamais empoigner directement les armes. En revanche, pour ceux qui sont exploités, le problème est complètement différent. Étant donné qu'il n'existe aucun organe institutionnel auquel déléguer l'expression concrète de leur rage, car à peine cet organe apparaît qu'il se retourne contre eux, le salarié, le gouverné, l'opprimé doivent assumer en leur nom la nécessité de la violence. Tant en éthique, en trouver la justification intime, qu'en pratique, dessiner des objectifs concrets, des formes d'organisation, des méthodes. Et cela suppose inévitablement un affrontement existentiel entre sa propre conscience et le discours que la société capitaliste fait sur elle-même à travers les médias, l'école, la famille. Quand la pratique des luttes réelles, et avec elle l'expérience directe de la violence, s'appauvrit, la solitude de ceux qui ne veulent pas se résigner se renforce. Ce phénomène s'accompagne souvent des diverses parodies militantes de l'affrontement révolutionnaire qui concourent à ramollir les esprits et à accumuler les décombres. Il existe une survie spectrale qui est plus funeste que la mort, notait encore Tasca. On pourrait dire que le capital, qui ne concède désormais aucune médiation, sinon sous la contrainte, se charge désormais de prouver toute l'impuissance des fausses oppositions, dans la mesure où il a fait apparaître, derrière l'éloge démocratique du dialogue, la matérialité de ses propres barrages. Ce qui était philistin, corrompu, aride, hypocritement diplomatique, a été longtemps source de fausses batailles et de vraies confusions. Une fois la rhétorique dissipée, il n'en reste que l'inconsistance. En ce sens, effectivement, la fête est finie.
Le fascisme de la Lega est donc un produit de la mystification démocratique sur la violence, laquelle a contribué à attirer tant de prolétaires dans ces angles morts d'où surgissent toutes les illusions. Après tous ces bavardages sur la non-violence, qu'un reste d'intuition matérialiste s'est rattaché aux dégradations des conditions de vie, quelqu'un arrive, promet l'usage de la force et demande un mandat pour l'exercer. Et il t'a dit, après les gauches apologies de l'égalité qui n'ont jamais résolu les inégalités réelles, qui tout vaut plus qui est le noir qui vend des mouchoirs à l'angle de la rue, que tu passes d'abord. Cet amalgame des ressentiments ne disparaîtra pas avec des leçons d'éducation civique, ni quand arriveront les premières preuves certaines que les jaunes verts n'amélioreront pas les conditions de vie et de travail, même de ceux qui ont voté pour eux. Il faut rien de moins qu'un puissant battement d'ailes sur les sédimentations de l'histoire, l'élan de ceux qui sont disposés à se battre contre l'ignominie sans garantie de succès. Comme dans toutes les périodes sombres, ceux qui commenceront seront peu nombreux. Ennemis de tout triomphalisme ridicule, ils devront à la fois abattre des barrages et tenir leur position. Quand la boue se met à penser, la boue gît au fond de leur âme. Et malheur si la boue se met à penser. C'était Friedrich Nietzsche. Les trompettes résonnent. Mais oui, j'arrive. Kurt Tucholsky. 3 points. Faire pression sur la réalité au point de la contraindre à jouer carte sur table, à parler clair. Waterman Benjamin.
Dans une lettre de son ami Scholem, en avril 1931, Walter Benjamin notait que les écrits contre-révolutionnaires peuvent être détournés de la contre-révolution. C'est dans cet esprit que j'ai lu ou relu, afin de comprendre le présent, certains textes de la révolution conservatrice, c'est-à-dire de ces intellectuels allemands qui, pendant la République de Weimar, préparèrent le terrain idéologique à l'avènement du nazisme. Dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, prise en étau entre le traité de Versailles, l'expansion des grands monopoles et le spectre de la révolution sociale, une partie de la bourgeoisie intellectuelle allemande radicalise son discours et cherche à récupérer au profit du nationalisme des concepts et problèmes du mouvement ouvrier afin de canaliser la rage sociale croissante au service d'un nouvel impérialisme. Et quel est ce nouvel impérialisme aujourd'hui? Encore plus agressif et totalisant. Avant même la réflexion sur la substitution de l'idéologie de la race à celle de la classe, celle sur la nature de l'appareil technologique que l'État et le capitalisme héritent des tempêtes d'acier, de la guerre est décisive. Je crois qu'aujourd'hui, l'analyse des nouvelles technologies d'une part et l'analyse du phénomène de la Lega d'autre part ne doivent pas être simplement juxtaposées, mais qu'il faut les faire converger pour comprendre pourquoi la démocratie digitale a besoin du racisme. Pour saisir le rapport entre la globalisation capitaliste et les différentes idéologies souverainistes dans l'actuelle phase historique. Pour revenir à l'image de l'étau, quels éléments jouent aujourd'hui le rôle du traité de Versailles et surtout, qu'y a-t-il de l'autre côté, à la place du spectre de la révolution sociale?
Dans le texte homonyme écrit en 1930, Ernst Young définissait la mobilisation totale comme une opération au moyen de laquelle les courants de la vie moderne, avec tous les vastes réseaux de ses ramifications, grâce à un simple mouvement sur les tableaux des commandes, est canalisé dans les grands courants énergétiques belliqueux. Ce que dit Young, c'est que l'appareil technologique des masses est déjà de l'énergie belliqueuse. Pour en discerner pleinement la nature, que la vie quotidienne tend à occulter, il suffit d'un simple mouvement sur les tableaux de commande. Vu que pour le moment, les États nationaux à capitalisme avancé se font encore des guerres par procuration, jusqu'à quand, l'énergie belliqueuse accumulée s'exprime dans la rancœur envers l'immigré, contre qui se canalise la crue sociale. Il s'agit d'un mécanisme très similaire à celui qui analysait William Reich, sur les plans psychiques et sexuels. On sent que pour changer cet état des choses, en juste, il faudrait un goût pour la liberté, un dépassement de la peur de l'inconnu et une résolue prise de responsabilité. Les refus d'un changement radical n'éliminent pas la tension. Au contraire, il l'augmente. Il la transforme en une cuirasse caractérielle due émerge en besoin des chefs auxquels on délègue l'administration de la nation comme un bon père de famille qui pense d'abord aux siens, à l'espace vital dont ils ont besoin pour grandir. Les passages successifs, c'est d'aller prendre aussi l'espace des autres qui forcément ne méritent pas de l'occuper. Le racisme parle toujours le langage de la famille et porte avec soi la guerre.
Ce n'est pas un hasard si les petits duces des services rabâchent l'expression en tant que père de famille pour justifier n'importe quel méfait policier et étatique.
Mais revenons au rapport entre technique et racisme. Junger écrivait que dans le gigantesque développement de la technologie agissent des modes différents de contraintes qui sont plus forts que la torture, si forts que l'humain les accueille avec jubilation. Décrivant quelle puissance belliqueuse pourrait canaliser et emprisonner un état total à la hauteur des tendances de l'époque, le fasciste Junger disait plus de vérité sur la nature totalitaire de la technologie que les intellectuels sociodémocrates ou les marxistes révolutionnaires, convaincus que les bons mouvements sur le cadre étatique de commande auraient mis cet appareil de moyens au service de la liberté. Autant d'autres vérités se retrouvent chez Spengler. Le théoricien du socialisme prussien et du nationalisme guerrier, qui participait en tant qu'invité d'honneur au Congrès des industriels pour ses attaques aux syndicats et au bolchevisme fiscal, annonçait dans « L'homme et la technique » de 1931 l'ère de l'animal de proie, animé d'une volonté de puissance qui dépasse toute limite d'espace et de temps, qui se fixe comme but l'illimité, l'infinitude, soumet d'entières parties du globe et embrasse finalement l'entière superficie terrestre avec les formes de ses trafics et de ses communications, et les transforme par sa violence, de son énergie pratique et l'immensité de ses procédés techniques. La division capitaliste du travail qui agit au niveau mondial attribue à des milliards d'êtres humains le rôle de demi-esclaves et assure seulement aux membres de la démocratie du peuple des mâles certains droits. L'appareil techno-industriel, qui est le frère jumeau de l'État et du capitalisme, vole, saccage, dévaste dans tous les recoins de la planète comme jamais. Mais étant muet et aveugle, il ne déclare pas ce qu'il fait, puisqu'il veut être jugé selon les valeurs du système qui en a permis l'immense développement, et non selon aux effets réels qu'il produit. Il a pu cacher sa propre histoire esclavagiste derrière l'affirmation de principes universels. On peut alors affirmer que le racisme est son moment de vérité. L'affirmation à haute voix selon laquelle les peuples colonisés sont inférieurs correspond à ce que les bombes, l'exploitation des ressources, les pratiques de ségrégation, les essais nucléaires, le tourisme sexuel, le marché des organes n'ont jamais cessé de réaliser. Le souverainisme, à présent, tirant de la fable du droit sa morale de force, les fait parler. La boue commence à penser.
Eh bien, on est à la fin de la deuxième partie. J'ai trouvé intéressante l'analyse, comme toujours, de mes compagnons et compagnonnes. Et je les trouve, oui, peut-être un peu difficile à suivre si on n'a pas certaines connaissances historiques. Mais ça peut être titillant. Allez après à se renseigner. À la prochaine fois. Ciao.
Sécheresse, la fiancée de l'eau a marié son sang à celui du ruisseau. Prince rang, je tombe blanc. 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 Ne sera jamais le drapeau rougissant de sa virginité. Regarde son honneur. Regarde son honneur, regarde son honneur. Regarde son honneur, s'enfuira par la mort, la triste voleur, lâche dans son corps. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Tu peux creuser la terre. Avec tous tes remords, creuser jusqu'en enfer, creuser, creuser encore. Non, tu n'auras rien d'elle. Non. rien d'elle. Non, tu n'auras rien d'elle.